Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Frédéric. Je vous propose un reportage en deux parties, réalisé par téléphone le lundi 30 mars avec Laurent Rubinstein, infirmier à l'hôpital Robert-Debré à Paris. Bonjour Laurent Rubinstein.
Bonjour.
Première chose déjà Laurent, comment ça va ?
Alors en ce moment ça commence à être difficile parce que le pic arrive doucement mais sûrement parce qu'à la base nous Robert-Debré on est un hôpital pédiatrique, on est vraiment que spécialisé dans l'enfant. Actuellement on accueillait que des patients, des enfants atteints du Covid mais qui ne présentaient pas forcément de complications. Donc là, on passe sur de l'adulte qui présente des complications. On a des lits de réa qui sont du coup ouverts pour eux. On a à peu près une trentaine de lits qui sont pour du coup accueillir les adultes. Là, je crois qu'on en a 12 ou 15 en ce moment sur Robert-Debré. Du coup, c'est vrai que ça commence à être difficile parce que nous, personnel, en fait, moi, je fais partie de l'équipe de la suppléance, donc je vais surtout l'hôpital. Là, j'ai proposé du coup d'aller sur la réanimation pour justement venir en aide. Donc, je vais avoir 4 jours d'intégration et après, je vais être dans le bain pour m'occuper des patients Covid en réanimation.
Donc, comment vous a présenté les choses pour vous, le service santé ? On vous a annoncé ça bien avant que nous on soit informés ou ça vous est tombé dessus comme ça ?
Non, ça nous est arrivé au fur et à mesure. Notre cadre nous a appelé en nous demandant si on voulait faire de la réanimation. Moi, j'ai dit « Ok, ça me dérange pas de faire de la réanimation adulte ». Et du coup, au fur et à mesure, on a su qu'ils ouvraient des lits, qu'il y a des services qui se fermaient pour justement accueillir de plus en plus d'adultes. Et finalement, oui, l'hôpital Robert-Debré va accueillir beaucoup plus d'adultes que prévu, vu la crise sanitaire qu'on est en train de traverser.
Ouais, donc vous êtes en train d'adapter aussi, comme pas mal d'hôpitaux, vous mettez plus de lits à disposition, c'est ça ?
Oui, on met plus de lits, il y a des respirateurs qui sont donnés aussi pour qu'on puisse accueillir le maximum de réa et de pouvoir sauver le maximum de personnes.
Alors, dans ce que j'ai bien compris, là, dans la conversation qu'on a commencé, vous dites qu'il y a, il y a aussi des cas d'enfants. Donc au départ, on disait que ça ne touchait pas les jeunes, mais en fin de compte, si, ça touche tout le monde, quoi.
Alors, il y a des cas d'enfants, oui, qui sont positifs, après, qui méritent une surveillance, du coup, sur le plan respiratoire ou autre. Mais en tout cas, il y a des enfants qui sont atteints du Covid-19, mais qui ne déclarent rien. C'est plus des enfants qui vont avoir des pathologies sous-jacentes, avec, par exemple, de l'asthme, avec d'autres maladies plus pulmonaires, où là, il va y avoir une surveillance. Mais sinon, sur les cas d'enfants, on est vraiment. Moi, j'ai pas eu de cas de réanimation sur des enfants. Mmh. Après, ça peut être des jeunes adolescents, ça peut être des jeunes de 15-16 ans. On peut arriver sur des cas réanimatoires.
Vous, Laurent, vous vous préparez comment, vous ? Parce que si j'ai bien compris, vous êtes volontaire pour aller travailler dans ce service. Mais vous vous préparez comment psychologiquement ? Comment ça se passe pour vous ?
Psychologiquement, j'essaye déjà de faire autre chose de mes journées, de penser à autre chose, de me dire que de toute façon, je vais faire mon métier. Si on traverse une crise sanitaire, s'il y a des décès, il y aura des décès. Si j'arrive à sauver des gens, justement, j'en serai fier et je serai content de ma mission que j'ai réalisée pendant ces mois-là. Et voilà, ça va me permettre aussi de pouvoir aider et de pouvoir faire mon maximum. Pour l'hôpital et pour la santé des patients que j'aurai entre mes mains.
Est-ce que vous avez une famille, Laurent ?
Oui, j'ai une famille qui habite à Cribourg-Valois.
Et vous avez des enfants ou ?
Non, je suis célibataire. Et justement, c'est pour ça aussi que je me suis proposé d'aller dans cette unité COVID-19 parce que je risque d'infecter personne. Quand je rentre chez moi, je suis tout seul. Donc je voulais pas faire prendre le risque à mes collègues qui ont des enfants ou qui ont une famille d'aller dans ce type de service.
Donc là, vous êtes en pause. Hein. Donc merci de nous accorder ce temps pour connaître un petit peu la situation, notamment à l'hôpital Robert-Debré. C'est quoi une journée en ce moment pour vous ? Alors comment ça se passe ?
Bah, là, en ce moment, vu que je suis pas encore en réanimation, je sais pas, je pourrais pas vous dire, mais une journée habituelle là dans un service de Covid, c'est habillage, déshabillage. On doit toujours du coup s'habiller. On est, on a par contre une restriction au niveau des masques. Là, on en a 3 à 4 par jour sur les masques chirurgicaux. Les masques FFP2, pour le moment, on n'a pas de on va dire, on n'a pas de restrictions, mais on nous dit que voilà, il faut vraiment surveiller notre consommation parce qu'on arrive à une pénurie. On parle de livraison. Pour le moment, je ne sais pas si à l'hôpital Robert Debré on a été livré, mais en tout cas, ce week-end, il nous restait la fin d'une boîte pour finir le week-end. Donc, il faut vraiment, on fait attention à notre matériel, on fait attention aux surblouses, etc. Donc, c'est vrai que c'est aussi des techniques qu'on doit apprendre et qu'on doit acquérir. Parce que c'est compliqué et au niveau hygiène, il faut vraiment faire le maximum attention pour éviter de prendre des risques pour nous et pour aussi les patients qu'on a en face de nous.
Et au niveau de l'effectif, alors on nous parle de sous-effectif, c'est vraiment la vérité, le quotidien que vous avez, c'est ça aussi, qu'il manque du personnel?
Alors, oui, il y a un sous-effectif, justement, il y a des applications là qui sont en train d'être créées, MedGo, etc., qui permettent à ce qu'on soit rappelé. Entre structures, en fait, on peut faire ça ou sur nos temps de repos. C'est vrai que moi, par exemple, ma cadre m'a dit non, le faites pas parce que si jamais l'hôpital a besoin de moi, ils vont me rappeler forcément parce qu'il y a des gens qui vont tomber malades, il y a des gens qui vont se mettre en arrêt parce qu'ils vont être atteints du Covid. Il y en a de plus en plus à l'hôpital parce que les cas de contagion, c'est pas les cas de contagion qu'on fait dans la rue, hein, c'est vraiment les cas de contagion qu'on a à l'hôpital. Parce que parfois on n'a pas forcément le matériel nécessaire, le matériel adéquat pour justement se protéger. Du coup, on va avoir plus de facilité à l'attraper. Du coup, le ministre de la Santé avait annoncé que justement c'était plus des cas qui étaient à l'extérieur, mais finalement non, c'est vraiment des cas qu'on a sur nos lieux de travail.
Donc malheureusement,
il y a 5 médecins qui sont décédés et des infirmiers aussi également. Ouais.
C'est pas un frein pour votre travail?
Non, parce que si vous voulez, je fais ce métier par passion et je me dis que il faut aller travailler, il faut aider le maximum de personnes. Par contre, en sortant de la crise, il faudra que le président de la République et le ministre de la Santé nous rendent des comptes. En nous disant, parce que là, il annonce des heures supplémentaires qui seraient du coup surclassées avec une prime, mais on n'a toujours pas de... Enfin, on n'a rien qui est annoncé officiellement. Donc voilà, et c'est vrai que nous, on se bat depuis... en fait, à la base, j'étais aux urgences pédiatriques. J'ai intégré le collectif Interurgence par rapport à la crise qu'il y avait sur Paris. À la PHP. Après, avec ce collectif, on a monté vraiment quelque chose d'énorme qui a touché toute la France entière. On a toutes les urgences de France. Il y a, je crois, 240, 250 services d'urgence qui sont mis en grève et qui ont rejoint le collectif Interurgence. Et depuis un an, on demande des moyens supplémentaires, on demande des effectifs supplémentaires. On en a eu peu. Parce que parfois, les plannings aux urgences, ils n'arrivaient pas à être comblés, etc. Et des heures supplémentaires qui nous... On avait des mails, enfin on a plus des fois 200 mails par jour d'heures supplémentaires parce qu'il manque tellement de monde, que ce soit dans les urgences ou dans n'importe quel service de l'hôpital, c'est vraiment une horreur. C'est chaque jour de travail, il manque toujours du monde.
Ouais, ça veut dire que vous n'avez pas été écouté pendant plusieurs années, quoi. On a laissé situation se dégrader, quoi.
Mais que ce soit sous Macron ou sous d'autres présidents, en fait, vraiment, ça a été une politique d'abandon de l'hôpital, en fait.
On est devant une crise sanitaire énorme, là.
C'est énorme. Là, nous, on a, du coup, avec le collectif Interurgence, on arrive à parler un peu avec l'Est, avec, du coup, toutes les zones qui sont touchées actuellement, et ils nous disent que c'est juste apocalyptique là-bas, avec des hôpitaux sous tente, avec des personnes intubées, ventilées, du coup, dans des hôpitaux de campagne, fait vraiment rapidement, et c'est des situations extrêmement compliquées pour les soignants, et je pense qu'à la fin de la crise, on va être tous sur les rotules, et et on invitera toute la population française qui nous applaudit à 20h à venir sur Paris pour venir manifester pour par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'on a réussi à faire et à sauver les personnes qu'on a pu avoir dans nos vies et qu'on a pu avoir dans nos mains, quoi.
Ouais, c'est important de préciser quand même qu'il y a des gens qui s'en sortent, hein. Il n'y a pas que des décès parce que...
Non, il n'y a pas que des décès, voilà. il y a des gens qui s'en sortent et heureusement, il y a des gens qui sont intubés. Après, la durée d'intubation, ça varie, mais c'est entre, c'est jusqu'à 3 semaines en position ventrale où on retourne les patients chaque 16 heures pour justement... leur permettre de récupérer au mieux. Donc c'est vraiment c'est des longues hospitalisations, mais il y a des gens qui s'en sortent et il faut souligner ça parce que souvent les médias ne soulignent pas ça. On parle que du taux de mortalité, mais il y a aussi des gens qui s'en sortent grâce aux soins qu'on leur prodigue et grâce à ce que les médecins, les soignants font pour ça.
Malheureusement, la personne qui décède du Covid-19, personne ne peut venir les voir. Ça doit être quand même triste pour vous de voir cette déshumanisation. Je ne sais pas comment dire ça, mais se dire mince, la personne meurt seule dans son coin. Vous êtes les seules personnes qui puissent les rencontrer, quoi.
Alors justement, pour vous donner les nouvelles infos et plus des fake news, y aura des visites qui seront autorisées.
Ah, ça c'est d'accord.
Je viens d'avoir un protocole qui, dans l'après-midi où justement il y aura une présentation du défunt à leur famille. Ça sera toujours avec un enterrement très restreint, mais il y aura possibilité d'avoir un enterrement et concernant la vue du corps, il y aura juste en fait, si vous voulez, le visage qui apparaîtra. Il y aura pas tout le corps, mais il y aura le visage qui apparaîtra et qui sera en mortuaire. Mais sinon, la famille pourra les voir.
Ouais, c'est important, je pense, pour faire son deuil, d'avoir cette possibilité de voir au moins le défunt, quoi. Oui. Et ça, pour vous, ça doit être dur, hein, quand même, de vivre ces moments-là, je pense.
Après, on va pas pouvoir sauver tout le monde.
Oui.
Mais les personnes qui vont s'en sortir, on en sera fiers et on sera très contents qu'ils s'en sortent. Et pour les personnes qui partiront, malheureusement, on aura tout fait pour qu'ils s'en sortent. Après, on n'est pas magicien ou autre. Hein. Si les thérapeutiques ne fonctionnent pas, on pourra pas faire grand chose. Et notre métier d'infirmier ou le métier d'aide-soignant ou de médecin, on peut voir des mises au monde, on peut voir des bébés naître et on peut voir aussi des gens mourir.
Fin de la première partie. À suivre sur les ondes de RVM, la suite du reportage avec Laurent Rubinstein, infirmier à l'hôpital Robert Debré. Reportage réalisé le lundi 30 mars par téléphone.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.